Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Aujourd'hui, le témoignage de Nora à propos du syndrome dit de Clove. Vous allez tout comprendre avec son témoignage. Témoignage de Nora et l'analyse juste après du professeur Guillaume Cano.
Mettre au point de nouveaux traitements, très souvent dans l'histoire de la médecine, ce sont des hasards. On va en parler avec vous, Nora, ce matin. Bonjour, Nora.
Bonjour.
Nora, je sais que vous avez fait un chemin sinueux pour venir nous rejoindre, parce que vous n'aviez pas de train. Je voudrais vous remercier, franchement, confiance et d'être là ce matin pour raconter votre histoire absolument dingue. Vous êtes la maman de trois enfants. Alors, Louise, qui a 8 ans, Joséphine, qui a 3 ans, et Mantine, qui a 1 an. Et votre fille cadette, elle souffre du syndrome de Clove, dont j'ai parlé au début de l'émission. C'est une maladie génétique rare et c'est une maladie qui provoque des déformations un petit peu partout sur le corps. Et il faut le dire, il y a 7 ans encore, cette maladie était totalement incurable. Jusqu'à ce qu'un médecin français, le professeur Guillaume Cano, qui sera sur ce plateau dans un instant, fasse une découverte majeure grâce à votre fille Joséphine, qui donc a été le premier nourrisson à bénéficier de ce traitement. À quel moment est-ce que vous avez découvert que Joséphine souffrait cette maladie ?
Donc Joséphine, ça a été découvert lors de l'échographie du deuxième trimestre, donc au 6 mois. Échographie que j'appréhendais beaucoup, car pour ma première, pour Louise, j'avais dû accoucher prématurément. Mm-hmm. Il n'y avait plus de liquide amniotique. Bon, Louise n'a aucune séquelle aujourd'hui, elle s'en est très bien sortie, mais de ce fait, j'appréhendais beaucoup cette échographie. Donc la première échographie, parfait, le bébé allait absolument bien. Nous avions fait une deuxième échographie en 3D pour connaître le sexe, donc on savait qu'on allait avoir une petite fille. Échographie qui était parfaite, et donc arrive la troisième échographie du deuxième trimestre où j'appréhende beaucoup. Et il y avait de quoi, effectivement. Donc l'échographie est très longue, le gynécologue pratique l'échographie sans rien dire. Nous ne disons rien, on attend, et à la fin de l'échographie, il se retourne vers nous, et là il nous dit qu'il retrouve une déformation au niveau de la jambe du bébé assez importante. Et il nous montre les images, effectivement, sans connaître être gynécologue, on voyait bien une jambe beaucoup plus grosse avec des taches noires qui apparaissaient au niveau de la jambe.
Ce qui est assez fou, c'est que vous le sentiez. Hein. Il n'y avait aucune raison.
Il n'y avait aucune raison apparente qu'il y ait de soucis, surtout que les autres échographies étaient parfaites. Mais oui, je sentais qu'il y avait quelque chose.
Alors, on vous a proposé une échographie spécialisée avec un autre médecin. C'était une semaine plus tard. J'imagine que la semaine a dû être très, très longue.
Très longue.
Qu'est-ce que vous annonce ce spécialiste ?
Donc l'échographie là était très rapide. Donc elle confirme simplement qu'effectivement il y a un problème de type lymphatique semblerait-il paraître au niveau de la jambe du bébé et que donc le bébé ne serait pas viable, ne pourrait pas vivre.
Ah oui, carrément.
Oui, ça a été très rapide, franchement très rapide. Elle nous dit qu'elle pourrait pas vivre, que le bébé allait mourir in utero, ou alors juste après l'accouchement que la maladie allait prendre tout le corps, donc c'était pas possible de continuer la grossesse.
Alors heureusement, pour monter le dossier de l'interruption médicale de grossesse, il faut faire une autre échographie. Cette fois, c'est dans un centre à Lille. C'est 15 jours plus tard. Et bon, on imagine à quel point vous deviez être désespérée, comme ça devait être dur. Et puis, il y a une rencontre qui va tout changer à ce moment-là. Racontez-nous ce qui se passe.
Donc, on se rend 15 jours plus tard à cette fameuse échographie. Où pendant ces 15 jours, je ne sentais plus mon bébé bouger. On avait perdu tout espoir. De toute façon, pour nous, c'était terminé. On se rend cette échographie pour mettre en route donc le dossier d'interruption médicalisée de grossesse. Donc une nouvelle échographie qui dure un peu plus d'une heure. Et puis à la fin de l'échographie, l'échographe nous dit qu'effectivement, il retrouve donc la malformation au niveau de la jambe, mais que les images lui semblent rappeler une maladie qu'étudie une professeure justement à ce centre hospitalier-là. Donc il nous demande si elle peut intervenir lors de l'échographie. Donc oui, donc elle vient de suite, elle regarde les images et puis là, elle nous dit effectivement que ça lui fait penser à ce fameux syndrome de Clove. À 90%, elle en était sûre. Donc elle nous explique que c'est un gène défaillant qui provoque de grosses malformations, de déformations, des malformations veineuses, graisseuses, lymphatiques. Et ce gène, c'est le PIK3CA. Oui. Donc elle nous explique que le professeur Cano a découvert une molécule qui ne guérit pas, mais qui stoppe les effets de la maladie. Mais effectivement, si le bébé pourrait avoir cette fameuse molécule, c'est bien toujours si, elle ne pourrait pas l'avoir avant ses 2 ans.
D'accord. Donc voilà. Là, dans quel état est-ce que vous êtes ? Parce qu'on vous dit que finalement, votre bébé peut vivre, mais qu'il va y avoir des déformations importantes au niveau du corps, sans doute des douleurs aussi associées. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, je poursuis quand même la grossesse ?
Le doute. Le doute. Mmh. De se dire, finalement, on nous dit que c'est possible, on bascule du tout au rien. Donc, c'était pas possible de prendre la décision tout de suite, à savoir si on continuait, si on arrêtait. C'était quand même une grosse décision à prendre. Donc, on a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir patienter, pour voir si la maladie allait évoluer. Pour l'instant, elle se limitait vraiment au niveau de la jambe droite. Donc, on voulait attendre de voir si des organes allaient être atteints. Si elle allait être atteinte au niveau du visage, si l'apparence allait être vraiment bouleversée. Et donc, on nous a laissé 3 semaines supplémentaires pour réfléchir. Donc, on est rentré à la maison, un peu coupé du monde. Hein. Je ressentais à nouveau mon bébé bouger. On avait repris un peu espoir, mais on s'était mis un peu dans notre bulle pendant 3 semaines pour attendre de voir si la maladie allait évoluer encore ou non.
Ah, vous avez décidé donc de garder Joséphine. Comment ça s'est passé, l'accouchement ?
Alors, l'accouchement s'est très bien passé. J'ai pu accoucher normalement, par voie basse. Ça s'est très bien passé. Joséphine arrive et là, la sage-femme me dit de prendre le bébé, hein, comme on fait pour tous les accouchements, et je refuse. Je refuse, parce que j'ai peur en fait de ce que je vais voir. J'ai peur de regretter. J'ai peur pour moi, pour elle. Donc je refuse. Donc ils prennent Joséphine et Nicolas, le papa, part avec elle. Et il revient et là je lui dis machinalement, est-ce qu'elle est touchée au niveau du visage ? Et il me dit non, elle est magnifique, elle est très belle. Mmh. Par contre, elle est touchée au niveau des 4 membres, chose qu'on n'avait pas vue lors de l'échographie.
Ouais. Et là, quand vous l'avez rencontrée pour la première fois ?
Ça a été magique. Donc, on me ramène Joséphine. Elle était emballée dans une petite couverture. Là, je regarde son visage et soulagement. Je me dis, elle est magnifique. C'est très heureuse. Et puis, je la déballe au fur et à mesure. Donc, le premier bras, le deuxième bras, la jambe gauche. Et puis là, je dois me confronter au problème et je déballe sa fameuse jambe malade. Et effectivement, là, je me retrouve devant une jambe 3-4 fois plus grosse que la jambe gauche, toute gonflée, démaciée, d'une couleur violette. C'était quand même assez impressionnant, mais j'avais pas peur. Parce que je me fixais sur son visage et elle était là. C'était le principal. C'était
le lien s'est fait tout de suite.
Pour l'instant, elle était là. Voilà, le lien s'est fait tout de suite. Oui.
Alors, les débuts avec Joséphine, ça a été plutôt magique.
Oui.
C'est à partir de ces 4 mois que ça a commencé à être difficile parce qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des infections. Donc, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là alors ?
C'est les 4 mois où l'enfer a vraiment commencé. On enchaînait hospitalisation sur hospitalisation. L'état de Joséphine commençait vraiment à se dégrader.
Vous saviez qu'il y avait un médicament ? Deuxième échographie.
Je l'avais déjà demandé dès la naissance de Joséphine, mais on savait que ce n'était pas possible. Mais on demandait quand même, dans l'espoir. Et puis jusqu'à la dernière hospitalisation, où vraiment son état général commençait vraiment à se dégrader, hein, ça devenait de plus en plus important.
Vous avez insisté pour voir le professeur Cano.
J'ai insisté, pas pour le voir, parce que je l'avais déjà rencontré avec Joséphine petite, mais là j'ai commencé vraiment à insister pour avoir ce fameux traitement, même si je savais que ce n'était pas possible. Et si vraiment ce n'était pas possible, j'avais demandé à ce que la jambe de Joséphine soit amputée.
Ah oui.
Bah, comme le problème venait de là, moi je me disais, plus de jambes, plus d'infections, plus de maladies, elle ira mieux. Mais bon, les médecins m'ont bien fait comprendre que ce n'était pas possible.
Ce n'était pas le traitement.
Voilà, ce n'était pas le traitement approprié, mais c'est de là que le mieux a commencé.
Alors, comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'elle a réussi finalement à avoir ce médicament ?
Donc, elle a réussi à l'avoir grâce au professeur Cano. Hein, le matin de son baptême, on va la réveiller pour aller la baptiser. Et encore une nouvelle infection, Joséphine pleine de température. Donc, on décide quand même d'aller la baptiser parce que ça avait déjà été reporté avec le Covid. Et sur la route pour partir, machinalement, je prends mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, je regarde mes mails. Et là, j'ai un mail du professeur Cano qui me dit qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer, qu'il va me téléphoner plus tard. Mais on a compris tout de suite que c'était pour avoir cette fameuse molécule. Et donc, on fait le baptême. Et là, on part à l'hôpital et les soignants nous voient arriver avec le grand sourire en se disant « Bah mince, ils ont l'air contents de venir pour une fois.
» Et alors, à quel moment est-ce que vous avez vu les premiers résultats de ce traitement ?
Très rapidement.
C'est fou, ça, quand même.
Très, très rapidement. Donc, Joséphine a pris la molécule à 11h du matin, dans sa petite cuillerée de compote. Et 3 heures après, je dis à Nicolas, le papa, « Écoute, j'ai l'impression que sa jambe, elle change de couleur. » Il me dit « Mais non, c'est pas possible, c'est parce que tu sais qu'elle a pris le traitement. » Bon, d'accord. Et peu de temps après, un médecin arrive dans la chambre et là, il me regarde, il me dit « Mais sa jambe, elle est en train de changer de couleur. » 3 heures après. Et donc ensuite, on est rentré à la maison et une semaine après, la jambe de Joséphine avait déjà énormément dégonflé. Plus aucune infection suite à la prise de la molécule.
Douleur.
plus de douleur.
Et comment elle va aujourd'hui?
Joséphine va très bien. Elle va très bien. Elle a eu ses 3 ans. Elle va à l'école toute la journée. Elle n'a plus jamais été à l'hôpital depuis qu'elle a pris la fameuse molécule. Elle ne prend plus d'antibiotiques. Elle n'est plus sous anticoagulant. Elle porte une chaussure orthopédique parce qu'elle a quand même un décalage entre ses deux jambes. Sa jambe droite reste plus gonflée que l'autre, mais c'est vraiment minime par rapport au début. Quand on la voit, on ne s'attarde pas forcément sur ça. Et elle est très épanouie, elle a des copains.
Elle prend un traitement tous les jours, là ?
Donc, elle prend sa petite molécule tous les matins, hein, qu'elle devra prendre toute sa vie. Mais c'est beaucoup moins handicapant par rapport à tout ce qu'elle prenait au début et la vie qu'elle a pu avoir en étant nourrisson par rapport à aujourd'hui. Non, elle va très, très bien.
Professeur Guillaume Cano, merci professeur d'être avec nous.
Bonjour.
Ce matin, vous êtes néphrologue, vous êtes directeur de l'unité de médecine translationnelle et thérapie ciblée de l'hôpital Necker à Paris. Et c'est donc vous qui avez trouvé le remède contre le syndrome de CLOVE et transformé, il faut le dire, le quotidien de centaines d'enfants. Alors vous êtes néphrologue, comment ça se fait que vous êtes occupé de ce syndrome-là? C'est pas la même spécialité.
Vous avez raison. Moi, je suis néphrologue adulte. Je m'occupe des patients théoriquement atteints de maladies rénales et adultes. Encore une fois, je ne faisais pas de pédiatrie. Et en 2015, un patient est venu me voir avec ce syndrome de CLOVES et une insuffisance rénale. Et il se trouve qu'il avait une maladie extrêmement sévère, extrêmement avancée, une pathologie rénale associée, et on me l'a adressé pour la maladie rénale. Et finalement, on a fait rapidement le lien entre la mutation qu'il portait, les malformations qui se développaient et potentiellement les traitements qui pouvaient être identifiés. Et à partir de là, on a travaillé plus que sur ces syndromes-là, ces malformations, et je ne fais plus de néphrologie.
C'est vrai, vous avez abandonné la néphrologie.
Je ne fais plus de néphrologie du tout.
Mais parce qu'en fait, il y avait des maladies associées, enfin, des maladies qui pouvaient être déclenchées par la même chose, mais qui n'étaient pas ces maladies-là. Enfin, je me suis très mal exprimée. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir, par exemple, je ne sais pas, des cancers dus à cette mutation.
Alors, effectivement.
Donc, il y avait des traitements qui étaient déjà existants.
Exactement. L'histoire de départ, c'est que cette mutation génétique d'un gène qu'on appelle PIK3CA fait proliférer, fait gonfler les cellules, fait qu'elles se multiplient vite. Elle donne des tumeurs bénignes. En fait, ce sont des patients qui ont des malformations, des déformations un petit peu partout, des vaisseaux, de la graisse, etc. Et il se trouve que ce PIK3CA est retrouvé fréquemment malade dans les cancers. 20-25% des cancers à peu près sont porteurs. Effectivement, PIK3CA seul ne donne pas de cancer. Pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut qu'il y ait beaucoup de mutations supplémentaires. Mais les cellules qui ont un cancer, les cellules cancéreuses, quand elles ont une anomalie PIK3CA, ça leur permet de se multiplier plus vite et de grossir plus vite. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on n'a pas inventé un traitement, mais on a pris un traitement qui est en cours de développement pour le cancer du sein et que l'on a repositionné, on appelle ça comme ça, pour cette maladie génétique où il n'y a qu'un gène malade. Encore une fois, pas comme en cancérologie où il y a plein de mutations successives.
Là, vous avez pensé à ça et vous avez dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, si ça marche pour les cancers du sein et pour éviter la prolifération, ça pourrait potentiellement marcher.
Exactement. Intellectuellement, ça ne pouvait, entre guillemets, que marcher. On a la mutation, on a la molécule qui peut bloquer, ça ne peut que fonctionner.
Enfin,
après,
c'est vous qui avez pensé.
Donc, on a reçu plein de questions, évidemment, de nos téléspectateurs, dont celle de Coralie qui vous dit, le syndrome de CLOVES est-il toujours détectable à l'échographie ou peut-on s'en apercevoir à la naissance de l'enfant?
Alors ça, c'est une question importante. Effectivement, on peut voir dans un certain nombre de cas les malformations en anténatale sur les échographies, parfois dès la première échographie. Là, en général, la présentation clinique est extrêmement sévère, avec des conséquences importantes, et la discussion principale tourne autour d'une interruption de grossesse. Régulièrement, le diagnostic est fait en fin de grossesse, au cours de la troisième échographie. Du coup, vous avez entendu avec le témoignage de Nora, il y a des discussions autour d'une éventuelle interruption de grossesse tardive, ce qui est beaucoup plus traumatisant, et d'une prise en charge à la naissance immédiatement. Mais dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas vu. Et c'est diagnostiqué quasiment immédiatement à la naissance, puisque ce sont des enfants qui naissent avec des malformations.
D'accord.
Théoriquement, on devrait faire systématiquement le diagnostic. Il ne devrait pas y avoir d'errance. Mais comme c'est mal connu, mal diagnostiqué, qu'il y a beaucoup de présentations cliniques, puisque la présentation clinique est très variable, ça va d'un gros doigt isolé, entre guillemets, à des malformations du visage, à des malformations du cerveau, ou parfois à des formes beaucoup plus étendues, eh bien, il y a une grande errance diagnostique. Tous les médecins ne connaissent pas bien, et tout le monde ne sait pas qu'en général, il y a un gène qui est responsable de ces anomalies-là.
Margot vous demande comment étaient traitées les personnes qui souffraient de la maladie avant votre découverte.
Alors, il est important de garder en tête que ce traitement, il n'est pas approuvé. Donc, ce médicament n'est pas disponible en Europe. Il est approuvé aux États-Unis, mais ici, en France, il n'existe pas, entre guillemets. On peut y avoir accès pour traiter les patients les plus graves. Les patients, on les traite symptomatiquement, c'est-à-dire quand ils ont mal, les traitements antalgiques, quand il y a des problèmes de coagulation avec des vaisseaux qui se bouchent, on appelle ça des thromboses, on donne des traitements anticoagulants.
Quand ou aspirine, doliprane, mais ça n'allait pas.
Voilà, alors il y a des traitements symptomatiques importants, vous avez entendu, des anticoagulants, des traitements antibiotiques, et puis régulièrement de la chirurgie et de la radiologie interventionnelle. Radiologie pour essayer d'aller injecter des produits pour faire diminuer le volume de certaines masses, quand vous avez des malformations des vaisseaux lymphatiques ou des malformations veineuses, et puis de la chirurgie, et qui est souvent malheureusement décrite comme étant mutilante.
Ah oui, c'est ça. Donc, puisque ça ajoute aux souffrances.
Les chirurgiens vont opérer, ils font du mieux qu'ils peuvent, bien sûr, mais en essayant de retirer ces masses, ce ne sont pas des masses bien circonscrites que l'on peut enlever facilement. En fait, ce sont des masses qui sont connectées avec des tissus en dessous. Il y a souvent des vaisseaux mal formés. Les chirurgies sont délicates, s'accompagnent souvent de saignements et de thromboses en post-opératoire, d'infection. Donc, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions, avec des chirurgiens qui connaissent et des anesthésistes qui connaissent.
Ouais. Pour revenir au traitement d'Amiens, on vous demande combien de patients avez-vous pu traiter à l'heure d'aujourd'hui et les résultats sont-ils toujours aussi spectaculaires?
Alors, pour le moment, on a un peu plus de 220 patients traités à Necker dans un protocole qu'on appelle compassionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut traiter que les patients qui ont des formes graves de la maladie. Donc, on a des critères objectifs pour définir ce qui est une pathologie grave. Il faut voir que ça représente à peu près 25% des syndromes, justement, liés à PIK3CA, ont une forme grave, 25% des formes bénignes et 50% ont une forme intermédiaire pour lesquelles on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Pour les formes graves, on peut donner ce traitement sans perdre trop de temps, on a facilement accès. Les résultats, systématiquement, le traitement apporte un confort, mais avec des degrés variables. Il y a des formes spectaculaires de réponse, comme Joséphine, oui, ou comme d'autres qui ont déjà été présentées dans d'autres émissions. Vous avez des fontes de masse, des enfants, un enfant paraplégique qui a récupéré la marche, on en a un deuxième également qui a récupéré la marche, des améliorations très nettes. Et puis chez d'autres, l'amélioration esthétique est moins visible, notamment quand on débute chez des adultes. Par contre, ce que l'on retrouve systématiquement, c'est une amélioration par exemple sur la douleur, sur la fatigue, qui sont des constantes
mal,
en fait, voilà, sur des suintements, sur des saignements. Et parfois, l'amélioration esthétique est moins visible pour plein de raisons. En fait, il y a plusieurs types de mutations PIK3CA, donc peut-être que le traitement n'agit pas toujours de la même manière. Il y a également les tissus touchés. On sait que l'os, par exemple, déformé ne répond pas bien au traitement, alors que des vaisseaux déformés répondent très bien au traitement. Et puis aussi le nombre de chirurgies que les patients ont eues, puisque un patient qui a eu 20, 30, 40, 100 chirurgies, comme on l'a vu pour un patient qui a eu une malformation de la face, vous avez des tissus qui sont remaniés, avec des cicatrices à l'intérieur, et certainement la molécule a du mal à pénétrer. Donc voilà. Il y a un fort engouement autour de cette molécule, de cette enzyme. Il faut garder en tête, voilà, il y a une grande variabilité dans la réponse. Néanmoins, les symptômes s'améliorent quand même presque à chaque fois.
Merci beaucoup au professeur Guillaume Cano et merci à Nora d'avoir accepté de venir se raconter devant les caméras et devant Agathe Le Caron. Ciao tout le monde.